Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Un de nos journalistes est parti en reportage à Anvers, à la rencontre de ceux qui subissent les conséquences du narcotrafic. On vous raconte les coulisses. Mais avant ça, le dossier des pensions, épine persistante dans le pied du gouvernement Vivaldi. Nous sommes le lundi 16 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
La réforme des pensions continue de causer du souci à la majorité fédérale. Le bonus pension proposé par la ministre Lalieux a été retoqué par la Commission européenne, trop coûteux. Sans adaptation, cela privait la Belgique d'une première tranche d'aide pour la relance. Et vu l'absence d'accord, la Belgique ne sollicitera pas ses subsides. Mais quelles sont les différentes options sur la table du gouvernement? Quelles sont les positions d'un parti à l'autre? Faut-il penser cette réforme comme un exercice comptable ou comme un choix de société? On a posé toutes ces questions à Pascal Laurent du service politique.
Bonjour Pascal.
Bonjour Pierre.
La réforme des pensions, c'est un des gros dossiers que le gouvernement fédéral va encore devoir régler dans les prochains mois.
Oui, tout à fait. Ce devait être normalement un dossier réglé, puisqu'on se souvient que la réforme a été approuvée en juillet dernier, juste avant la fête nationale. Et puis, les choses se sont un peu compliquées dans la mesure où l'Europe, la Commission européenne, demande à la Belgique, dans le cadre du plan de relance, de satisfaire 20 objectifs. Parmi ceux-ci, on trouve notamment le fait qu'on ait un système de pension qui soit supportable, et socialement et financièrement. Or, ce que le bureau du plan a constaté, c'est que le bonus pension qui a été prévu dans le cadre de la réforme des pensions, c'est-à-dire le fait de donner un peu plus aux gens qui choisissent de continuer à travailler alors qu'ils pourraient partir à la retraite,
risque... donner un incitant.
Un incitant financier, tout à fait, de 2 ou 3 euros, dit-on. Eh bien, ce bonus pension alourdit le coût des retraites à l'horizon de 2070. Et ce poids financier supplémentaire est estimé entre 0,1 et 0,3% du PIB. Alors, voilà, c'est évidemment une estimation, mais ça va à l'encontre de la demande de l'Europe d'avoir un système de pension, un système de retraite financièrement soutenable. Donc, la Belgique est priée de revoir un peu sa copie. Et là, on retrouve à ce moment-là ce bon vieux clivage gauche-droite au sein du gouvernement.
Vous avez, il y a quelques jours, pu interroger Thomas Dermin, le secrétaire d'État à la relance, notamment par rapport à cette question, parce qu'il vous l'a dit, les fonds européens pour la relance, la Belgique va devoir s'asseoir dessus, le temps en tout cas de trouver un compromis sur ce point précis des pensions.
Il y a donc deux critères qui ne sont pas encore rencontrés sur 20, celui de la soutenabilité des retraites et celui de la traçabilité des fonds financiers. Donc, puisque l'Europe, dans le cadre du plan de relance, nous octroie de l'argent public, des subsides, qui vont servir à financer des projets très concrets. On pense à des projets en mer du Nord, à un grand scanner de conteneurs pour le port d'Anvers pour pouvoir contrôler plus efficacement les conteneurs suspects. On pense à des investissements dans les écoles, des choses comme ça. Donc, c'est des choses très concrètes qui vont être réalisés par des entreprises belges ou européennes selon l'importance des projets. Et ce que l'Europe demande, c'est qu'on puisse identifier qui sont les exécutants et les bénéficiaires finaux de ces investissements. Autrement dit, si une société vient réaliser des travaux dans une école avec un financement européen, eh bien, il faut pouvoir identifier qui est cette société et qui en sont les actionnaires. Ça participe notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Pour toute la question des pensions, il y a quoi comme possibilité aujourd'hui sur la table de Karine Lalieux, la ministre de tutelle? Elle a une marge de manœuvre, plus ou moins, pour négocier?
Alors, la ministre des pensions a formulé certaines propositions. La principale consiste à limiter en fait l'octroi du bonus pension. On ne le donnerait plus que aux gens qui ont un revenu inférieur à 4000 euros brut et on ne l'octroierait pas au-delà de l'âge légal de la retraite. Autrement dit, si une personne de plus de 65 ans aujourd'hui, mais 66 et puis 67 ans d'ici 2030, décide de continuer à travailler après cet âge-là, il n'y aura plus de bonus. Enfin, il n'y aurait plus de bonus, puisque à ce stade, ça reste une proposition et pas encore une décision. Et donc, voilà, l'idée de limiter l'octroi du bonus, c'est aussi de limiter son impact financier, et donc d'essayer de rentrer dans les clous et dans cette trajectoire financière que l'Europe attend de nous. Ça, c'est la proposition minimaliste, si je puis dire, qui est celle de simplement corriger la réforme précédente. À côté de cela, venant de l'aile droite du gouvernement, il y a une demande pour qu'on aille plus loin dans la réforme, donc qu'on refasse une nouvelle réforme des pensions, en quelque sorte, en touchant notamment aux régimes spéciaux dans la fonction publique. On pense à la pension des conducteurs de train, à la pension des militaires, qu'on supprime cette fois-ci la péréquation des pensions de la fonction publique, c'est-à-dire l'adaptation tous les deux ans du montant de la pension des fonctionnaires au montant des revenus, au coût de la vie et au montant des revenus de la fonction publique. Donc bref, c'est plus ambitieux, si je puis dire, mais ça a suscité évidemment un blocage et du PS, qui a la matière, et des colos, puisque les socialistes et les écologistes ont aussi la tutelle sur le personnel concerné. Les conducteurs de train, c'est Georges-Gilles Quinet, ministre écolo, et les militaires, c'est la ministre de Donder, qui est socialiste. Bref, donc l'aile gauche du gouvernement, jusqu'à présent, a dit non, pas question de toucher aux régimes spéciaux et à la péréquation. Mais dans l'interview qu'il nous a accordée et publiée ce vendredi, Thomas Dermin était moins clair, si je puis dire. Il disait, il faut voir, ça dépendra de ce qu'on met sur la table. Et donc, pourquoi ça dépendra de ce qu'on met sur la table? Parce qu'il y a d'autres dossiers importants qui vont arriver dans les prochaines semaines et qui devraient tous converger vers le moment de l'ajustement budgétaire, à savoir au fin février, début mars.
Ça veut dire que cette réforme des pensions, arrêtez-moi si je me trompe, ça pourrait servir d'espèce de monnaie d'échange, en tout cas de levier de négociation dans d'autres dossiers, pour les socialistes, ils pourraient se dire bon, on accorde un petit peu à l'aile droite du gouvernement sur la réforme des pensions si on obtient quelque chose sur un autre dossier.
Ce pourrait être le cas. On sait que les socialistes et les écologistes, notamment les libéraux également, attendent de la réforme fiscale, par exemple, du ministre Van Petegem, qu'elle permette d'augmenter les salaires de la classe moyenne. Alors, comment fait-on? Ben, on allège un peu la fiscalité sur ces revenus-là, en recréant par exemple plus de tranches intermédiaires au niveau des impôts. Et les gens étant moins imposés, on diminue le précompte prélevé sur leur salaire chaque mois, et donc ils peuvent à ce moment-là toucher un peu plus d'argent. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que certaines catégories de revenus aient un gain de l'ordre de 300 euros par mois. Donc c'est quand même considérable, et c'est possible via un allègement fiscal. Là où peut-être la gauche et la droite se distinguent par rapport à cette demande, c'est que du côté de la gauche, on entend fermement obtenir que cet argent, cette baisse fiscale, soit compensée par ailleurs. On n'a pas envie de rééditer l'épisode du tax shift sous la précédente législature où, en définitive, on avait dû constater qu'il creusait le déficit de l'État parce qu'il n'était pas entièrement financé.
Dans tous les cas, par rapport aux pensions, il faut faire quelque chose parce que, au-delà des demandes de la Commission européenne, comme vous l'avez déjà expliqué, cette réforme, elle est prévue dans l'accord de gouvernement. De toute façon, il faut y toucher.
Cette réforme est prévue dans l'accord de gouvernement. Maintenant, on a jusqu'à présent réalisé 2 volets sur 3. On a d'abord augmenté la pension minimum en début de législature, et aujourd'hui, avec l'effet cumulé de cette augmentation et de l'inflation, la pension minimum pour ceux qui y ont droit a dépassé le cap des 1500 euros par mois. Elle devrait encore augmenter au début de l'année prochaine. Le second volet, c'est celui qu'on a connu en juillet dernier, avec notamment l'octroi du bonus pension et les conditions aussi qui ont été revues pour obtenir pour avoir accès à cette pension minimum. Et puis il y a le dernier volet qui concerne notamment l'extension du deuxième pilier, toutes les pensions de groupe, et la convergence des régimes de pension entre le régime indépendant, le régime salarié et le régime des fonctionnaires. Et donc là, ça paraît être un gros chantier. Est-ce que la Vivaldi aura encore la cohésion politique pour y arriver sur ce chantier-là? Ça, on le verra. L'échéance de début mars sera, à mon avis, importante, et elle nous indiquera si la Vivaldi peut encore mener à bien cette réforme ou si, au contraire, il faut la reporter à la législature suivante, sachant que 2023 est la dernière année pleine avant d'entrer dans une année électorale. Et on sait que les décisions difficiles sont compliqué à prendre quand les élections approchent.
Si on prend un peu de hauteur par rapport à ce débat, réfléchir le système de pension comme on le fait aujourd'hui, c'est poser une certaine idée de la solidarité avec des plus jeunes qui financent les pensions des plus vieux ?
C'est une manière de voir les choses, il y en a deux. Le régime des pensions, c'est effectivement un mécanisme de solidarité puisque ce sont les travailleurs actuels qui cotisent, qui financent la pension des personnes qui ne sont plus actives. Ces personnes ayant elles-mêmes, à une certaine époque, financé la pension de leurs prédécesseurs. C'est une manière de voir les choses. Maintenant, on est confronté à un effet démographique indéniable. La génération du baby-boom d'après-guerre est aujourd'hui arrivée à la retraite, avec une espérance de vie qui a relativement augmenté. Je dis relativement parce que selon les catégories sociales et les régions du pays, cette espérance de vie n'est pas la même partout. Et donc, on est aujourd'hui à un pensionné pour 3 salariés et on pourrait arriver demain à un pensionné pour 2 salariés. Donc, ça va réduire évidemment les épaules sur lesquelles on s'appuie pour financer les retraites. Maintenant, la question des retraites, autrement dit de la fin de vie que l'on accorde aux aînés, de la manière dont les aînés vivent les derniers chapitres de leur existence, et ça nous concernera un jour, je l'espère, c'est aussi une question de choix de société. Et la question de l'âge de fin de carrière est aussi un choix de société. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où demain on travaille jusqu'à 70 ans ? C'est un choix important. Et ça mériterait un très large débat. On se souvient que le premier panel citoyen organisé par le Parlement wallon sous la législature précédente avait montré que les gens ne souhaitaient pas aller au-delà de 65 ans, par exemple. Alors, vous me répondrez, mais alors comment finance-t-on les pensions ? Mais il est possible de les financer autrement par la fiscalité et la parafiscalité. Mais le fait d'augmenter les impôts sur certaines épaules et de les baisser sur d'autres, c'est un choix de société, c'est un choix politique. Et donc voilà, je trouve que le sujet des pensions ne doit pas rester un débat simplement comptable. C'est un débat de société. Il serait intéressant qu'on puisse impliquer davantage la population, parce que dans le cadre de ce panel citoyen wallon, on avait vu que les gens avaient débattu de manière très responsable, respectueuse, et avaient pris en compte les différentes informations qui étaient portées à leur connaissance. Moi, je rêve, pourquoi pas, un jour, d'un vaste référendum sur la question de l'âge de départ à la retraite, avec au préalable une campagne d'information publique où les différents éléments du débat sont pris en compte et pas des choix qui sont simplement laissés à l'appréciation de notre classe politique.
Merci beaucoup Pascal.
Avec plaisir.
Grand Angle.
Il y a quelques jours, ce drame à Anvers, une enfant de 11 ans trouvait la mort suite à un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Frédéric Delepierre est journaliste au service Société. Il est parti en reportage à Merxem et à Borgerhout à la rencontre de celles et ceux qui sont touchés de près ou de loin par ce narcotrafic. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment prépare-t-on ce type de reportage ? Louise Canu l'a appelé pour en savoir plus sur les coulisses de cette enquête.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Louise.
Avant de rentrer dans les coulisses de votre enquête, en quelques mots, rappelez-nous la situation à Anvers.
La situation à Anvers perdure depuis de très nombreuses années. Le port d'Anvers est devenu la principale porte d'entrée du trafic de drogue et essentiellement de cocaïne en Europe, ce qui fait que ça provoque une certaine délinquance. On parle même parfois de guerre des gangs à Anvers. Régulièrement, des maisons sont prises d'assaut, on y lance des grenades, des voitures sont incendiées. Le service de déminage de l'armée a dû intervenir de nombreuses reprises pour des colis suspects déposés devant les maisons. Donc, dans certains quartiers, on parle même de zones de non-droit. C'est vraiment des zones de guerre. À tel point que, il y a quelques jours, lundi soir, donc une fillette de 11 ans a fait les frais de cette guerre des gangs, puisque elle en est morte. Des membres d'un gang ont tiré sur la porte de garage d'une maison. Il sait que derrière cette porte de garage se trouvait une pièce de vie où se trouvait la petite fille de 11 ans. Qui a donc pris une balle. Et pourquoi a-t-on pris cette maison d'assaut ? Il se fait que cette maison est habitée par des membres d'une famille d'un gang, un gang dont font partie 2 membres éminents du trafic de drogue à Anvers. Donc il pourrait s'agir d'un règlement de compte, donc a été victime cette fillette.
Alors, vous êtes ici, Frédéric, pour discuter des coulisses de votre enquête. Racontez-nous comment vous construisez votre enquête petit à petit.
C'est peut-être un peu prétentieux de parler d'enquête. Ici, il s'agit simplement d'un reportage pour aller à la rencontre des gens qui vivent avec ce trafic de drogue, des simples citoyens qui ont à subir par moments les problèmes posés directement ou indirectement par ce trafic de drogue. Donc oui, il se fait qu'en me rendant sur place à Merxem et à Borgerhout qui est vraiment la cité où il y a le plus de faits liés à ce trafic de drogue, les gens par moment concèdent vraiment que c'est difficile de vivre avec la présence même souterraine de cette drogue, parce que ces gens n'osent plus sortir de chez eux à certaines heures du jour et surtout de la nuit. Et il se fait que j'ai rencontré un étudiant qui, lundi soir, était tranquillement chez lui, occupé de potasser ses cours. Et il a entendu les coups de feu parce qu'il habite à quelques dizaines de mètres de la maison où s'est passé le drame. Et il a reconnu les individus qui ont tiré comme étant ceux qui, quelques heures auparavant, s'en étaient pris à un épicier en le braquant tout simplement avec une arme et en lui demandant la caisse. Donc c'est quand même assez difficile pour certaines personnes de vivre avec ce trafic de drogue.
Quelles difficultés vous rencontrez pour mener ce reportage ?
La difficulté pour des francophones comme nous qui ne maîtrisons pas bien la langue néerlandaise, c'est déjà le barrage de la langue. Ce barrage passé, le souci c'est de réussir à gagner la confiance des gens en un temps quand même très très réduit. On les croise dans la rue, on sonne chez eux, on entre dans leur commerce, et on sent bien qu'ils n'ont pas forcément envie de parler de ce trafic de drogue et de la façon dont ils le subissent, parce qu'ils ont peur des représailles pour certains. Donc il faut vraiment gagner leur confiance et montrer qu'on est pas là uniquement pour les faire parler, on n'est pas là pour les mettre en danger, mais simplement pour essayer de faire comprendre l'ampleur de ce trafic, tout simplement, et les conséquences qu'il peut avoir. Et puis en quelques minutes, le lien peut se nouer, mais ça peut aussi, très vite, et on le sent très très vite, ça peut devenir un échec, parce qu'on sent que les gens se referment. Et il y a aussi le barrage de la communauté. Par moments, il est assez compliqué de nouer le contact avec certaines personnes issues de certaines communautés, parce que ces gens n'ont pas l'habitude de tourner vers eux, qu'on leur donne la parole. Et ils ont peur, tout simplement.
Vous nous expliquiez en off que vous partiez un peu vers l'inconnu sans trop savoir exactement qu'est-ce qui vous attendait. Est-ce que c'est aussi ça, le reportage ? C'est aussi un peu d'improvisation ?
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est ici, c'est un sujet assez connu, et Anvers, on y va de temps en temps, donc c'est pas trop compliqué d'y aller. Simplement, il faut se mettre dans l'état d'esprit, il faut se documenter un peu. Partir à Borgerhout, c'est pas un endroit où on va souvent, donc faut un peu chercher ce qui s'est passé ces derniers mois, voir quels sont les faits qui ont été enregistrés. Par contre, partir à l'étranger lors d'événements totalement imprévisibles, ça arrive aussi. J'ai connu cette expérience à plusieurs reprises, notamment avec le tsunami en Thaïlande en 2004. Voilà, on en était chez nous à préparer gentiment les fêtes, et puis survient ce tsunami tout à fait imprévisible. Il faut partir, il faut tout laisser de côté. On part presque dans l'heure, on se trouve un billet d'avion, on fait son sac et on s'en va. On n'a pas trop le temps de s'imprégner des événements. Idem avec le giga tremblement de terre qu'a connu Haïti en 2010. On laisse tout, on s'en va, et puis on organise pendant le voyage, tout simplement.
Vous avez eu peur pour votre sécurité quand vous couvriez Anvers ?
Non, pas vraiment, parce qu'on sait qu'on va à la rencontre de citoyens. Maintenant, oui, on peut tomber sur des gens qui sont eux-mêmes impliqués dans ce trafic de drogue, qui n'apprécient pas trop de voir la presse. Donc, on peut, oui, c'est le hasard qui peut nous faire croiser le chemin de ces gens-là. Donc, je ne vais pas dire qu'on a peur. Il y a peut-être certaines formes d'appréhension. Oui, et qui fait qu'on peut être parfois un peu plus tendu que pour des sujets un peu plus classiques, oui, quand même.
Vous êtes parti avec Pierre-Yves Tiampon, qui est journaliste photo au Soir. Comment vous avez coordonné tous les deux ce reportage ensemble ?
Avec Pierre-Yves, on se connaît depuis très longtemps. On est parti très très souvent ensemble, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, donc on n'a pas grand chose à se dire. Je lui explique la thématique du reportage. On se retrouve sur place, on décide de partir dans tel ou tel quartier. je lui dis le genre de questions que je vais poser aux gens. Et on se met d'accord sur des photos portraits de ces personnes et sur des photos d'ambiance en fonction de l'endroit où on se retrouve, du feeling qu'on a par rapport au lieu et des bâtiments qui peuvent permettre d'illustrer vraiment l'ambiance du lieu où on se trouve. Ça se fait quand même avec beaucoup d'instinct finalement, quoi. Il n'y a pas vraiment de directive à donner. Moi, je peux par moment lui dire « Tiens, tel endroit me semble intéressant à prendre en photo », mais lui, de son côté, il peut s'autoriser évidemment à poser des questions aussi lorsque j'ai un entretien avec quelqu'un. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est ce qui fait la force quand on se connaît et qu'on a l'habitude de travailler ensemble.
Frédéric, une dernière question avant de vous laisser reprendre la route. Pourquoi c'est important que le public connaisse un peu les coulisses du reportage ?
Bah, je crois que c'est important dans le sens où le grand public se fait parfois des idées par rapport à notre métier. Alors c'est un métier qui fait rêver, bon, c'est aussi un travail qui surtout est un travail qu'on mène au quotidien, qui est parfois assez classique, presque banal maintenant. À côté de ça, c'est vrai qu'on a la chance de vivre parfois des situations assez exceptionnelles qui peuvent prendre aux tripes, qui nous emmènent dans des lieux assez inattendus, à nous d'amener le lecteur avec nous et de lui décrire le mieux possible ce qu'on vit et de lui faire vivre ce qu'on vit en termes d'émotions, en termes d'images et aussi de lui faire comprendre que parfois, souvent, même toujours, un journaliste, c'est quelqu'un de normal, quoi, tout simplement.
Merci Frédéric.
Merci à vous.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.